Il est 9h34. J'ai une invitée ce matin qui a choisi de faire un témoignage qui est très émouvant pour elle à la radio. Nous allons l'appeler Marianne tout au long de l'entrevue, mais sachez que c'est un pseudonyme. Marianne est allée à l'orphelinat de Chicoutimi, y a vécu des sévices, et dans son histoire, elle a perdu sa mère de façon tragique et violente. C'est une histoire vraie, pas facile à entendre, qui va vous rappeler peut-être des souvenirs pénibles à certaines personnes qui nous écoutent. Je préfère vous en avertir. Nous donnerons des numéros de téléphone à la fin pour ceux qui auraient besoin d'aide, bien sûr. Bonjour, Marianne.
Bonjour.
Marianne, pourquoi désiriez-vous témoigner aujourd'hui?
Pour me délivrer d'un grand secret.
Pour vous libérer de votre enfance.
Oui, oui.
L'orphelinat de Chicoutimi a été dirigé par les petites franciscaines de Marie entre 1931 et 1968. En quelle année avez-vous vécu dans cet orphelinat et quel âge aviez-vous?
En 63 jusqu'en 65, j'avais 2 ans et demi et je suis sortie à 4 ans et demi.
C'est pas vieux, c'est pas vieux. Vous aviez une famille à ce moment-là. Quelles en sont les raisons? Pourquoi êtes-vous allée à l'orphelinat?
Bon, ma mère avait 3 enfants, une sœur que j'ai et mon petit frère plus jeune. Et elle a subi de la violence par son mari, par mon père. Puis, mon père a cassé les reins à mon frère avec une chaise. Oh. Puis, ma mère, quand mon père est parti à l'extérieur pour aller travailler, elle nous a pris toutes les trois, puis elle nous a emmenés à l'orphelinat pour sauver nos vies aussi. Puis, après elle s'est sauvée à Bécomo chez son frère.
OK. Quels souvenirs conservez-vous de l'orphelinat puis de votre arrivée là-bas? Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, j'étais dans l'ascenseur, dans les bras de ma mère, puis je criais, je pleurais, je savais qu'elle me laissait là. Mmh.
C'est pas facile. Puis votre petit frère était où à ce
moment-là?
Mon
petit frère, lui, il était où? La pouponnière en haut? C'était en haut parce que je prenais toujours l'ascenseur pour venir le voir. Puis c'est sûr, mon petit frère n'a jamais marché. Ça fait que quand il me voyait, bien, il se traînait avec ses bras pour venir me voir de plus près.
Puis il est décédé à l'orphelinat?
Oui, oui.
Est-ce que vous vous souvenez de son décès? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que...
Je l'ai vu dans une tombe fermée, toute blanche. Okay. Mais je n'ai pas vu mon frère dans la tombe.
Dans la tombe, vous ne l'avez pas vu. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé.
Non.
Au niveau de la nourriture, vous m'avez dit que vous étiez forcé à manger certaines nourritures.
Le fameux gruyot à mouton. Puis, c'est sûr, le cœur me levait, ça fait que je vomissais. Puis, j'étais obligée de manger mon gruyot. Je n'avais pas le choix de le manger.
OK, c'était les sœurs qui vous obligeaient à manger.
Oui, absolument.
Votre gruau. Vous m'avez dit toutes sortes de choses également. Vous aviez beaucoup de réactions là-bas. Vous vous tiriez les cheveux?
Oui, je me tirais les cheveux. Puis, je faisais pipi au lit. Puis, là, je n'ai pas de souvenir, mais je sais que je mangeais des plures de patates, mais j'avais faim. C'est le seul souvenir que j'ai. Puis, vu que je faisais pipi au lit, ben j'avais une camisole de force.
Vous vous souvenez de ça, la camisole de force?
Oui, je me rappelle. Et des bains assez bizarres, on faisait la file. On rentrait dans le bain, ils prenaient un gros tuyau d'eau, nous envoyaient ça sur la tête, puis on sortait du bain. C'est ça.
C'est tout ce que vous aviez droit, là.
Oui.
Est-ce qu'à travers ces souvenirs qui sont difficiles, vous avez gardé quelque chose de positif de l'orphelinat?
Oui, j'avais une sœur, une religieuse, sœur Fatima. Elle, quand elle travaillait, elle essayait toujours de nous protéger. Puis, parce que souvent, ben, on avait des coups de strap, mais je sais, j'ai jamais su pourquoi on avait toujours des coups de strap. Puis quand elle travaillait nuit, ben là, elle disait, Marianne, viens coucher dans mon lit, mais va pas faire pipi dans mon lit. Puis je faisais même pas pipi dans son lit, tu sais.
Il y avait de l'amour à quelque part.
Ah oui, oui. Elle, là, ça a été ma préférée.
Est-ce que votre mère a essayé de revenir vous chercher?
Notre mère aurait voulu revenir nous chercher, mais elle a refait sa vie, malheureusement, avec un homme violent, un autre homme violent. Lui, il y avait 7 enfants qui ont été placés quand ma mère a connu cet homme-là. Puis, il a dit à ma mère, « Si tu veux revoir tes enfants, moi, je vais aller chercher mes 7 enfants. » Ma mère a dit, « Voyons, ça n'a pas d'allure, tu sais. » Fait qu'elle n'est jamais venue nous rechercher, mais je la voyais assez régulièrement. Là. On avait des visites.
OK. Mais ça, c'était plus tard dans votre vie, ça?
Oui, c'est ça.
On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que à l'orphelinat, il y a des membres de votre famille, par exemple, qui ont essayé d'aller vous chercher?
Oui, la sœur de ma mère. Et ils ont dit, vous êtes trop jeune, mais je pense que ma tante avait 26 ans dans ce temps-là.
Donc, vous avez quitté l'orphelinat avec votre sœur pour une première famille d'accueil.
C'est ça.
C'était une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant.
C'est ça.
Qui vous a choisi.
Oui, puis elle avait une fille qu'elle avait adoptée aussi.
OK. Oui. Vous êtes arrivé dans une bonne famille.
Oui, 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 absolument.
Y a-t-il des choses qui ont changé à partir de ce moment-là pour vous?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce qu'à l'orphelinat, vous vous arrachiez les cheveux?
Ah, mon doute. Tout a disparu. Je faisais même de l'eczéma.
OK. Puis ça a disparu dans cette première famille.
Tout a disparu.
Vous aviez beaucoup d'amour.
Oui, absolument, oui. Mm.
Là, vous en avez fait plusieurs par la suite.
Oui, c'est ça.
Pour toutes sortes de raisons.
Oui.
Des raisons de...
Bien, il y en a que c'est des raisons de santé, puis il y en a qu'ils s'essayaient quand même pour être foyer d'accueil, mais c'était pas ce qu'ils pensaient, ça fait que... Mais j'ai toujours des bons liens avec eux autres. Mais je peux vous dire que j'y vois encore régulièrement. Il y a certaines personnes.
Certaines personnes de toutes les familles d'accueil où vous êtes allées. Est-ce qu'il y a une famille d'accueil ou des familles d'accueil à un moment donné qui ont été moins plaisantes?
Oui, j'ai juste un foyer d'accueil. Elle n'avait trop pris d'enfants. Puis j'étais couchée sur une chaise de soleil. Ça fait que ça n'a pas été long. Je n'ai même pas resté là 2 mois.
Ah, OK.
Oui, oui.
Parlez-nous du sentiment qu'on ressent quand on change de famille, d'accueil autant de fois, puis les répercussions aussi sur votre vie au niveau émotionnel.
Bien, j'ai ressenti de l'abandon, d'insécurité, beaucoup d'insécurité, parce que je savais jamais où ce que j'allais aller.
Quand on fait ça à des enfants, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, l'amour des familles d'accueil, c'est nécessaire.
Oui.
Et je sais que... Par rapport aux familles d'accueil, vous avez quand même un petit message à dire, positif, pour peut-être les gens qui nous écoutent.
Oui, bien, moi, j'ai eu une travailleuse sociale dans ma vie qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis, elle m'avait donné une petite carte que j'ai encore. J'ai toujours eu partout dans la maison, je la traîne partout. Quand ça va pas bien, bien, je lis cette phrase-là. La vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. Si tu ne fais pas d'efforts... Tu as le droit d'être heureux, hein, même s'il y a arrivé toutes sortes de choses. Si tu fais des efforts, tu vas réussir.
Quel
tu vas
beau
t'en
message.
Sortir.
Quel beau message, quel bel enseignement. On va écouter une chanson.
OK.
Mm-hmm. La chanson s'appelle « Prendre un enfant » de Yves Duteil. Puis on revient tout de suite après.
Parfait.
Marianne, vous êtes arrivée... à l'âge de 14 ans, chez la sœur de votre mère.
Oui.
Et ça, je pense que ça a changé une grande partie de votre vie aussi.
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, là, je sentais que j'étais vraiment dans ma famille.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir votre mère plusieurs fois par la suite?
Oui, nous autres, on montait de 2 à 3 fois par année à Haute-Rive aller voir ma mère, oui.
Puis c'était quoi le lien que vous aviez avec elle à ce moment-là?
Je vais vous dire qu'on passait des bons moments ensemble. Je savais que ma mère, elle m'aimait beaucoup, tu sais.
Vous le sentiez?
Ah oui, 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 absolument, oui.
Vous le sentiez. Malheureusement, votre mère est décédée de manière dramatique à 36 ans.
Oui, c'est bien ça, oui.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Bon, moi, ça a été compté par mes sœurs et mon frère, parce que moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Eux me l'ont compté. C'est que son conjoint a voulu battre un de ses enfants. Ma mère, qui vivait comme dans un genre de duplex, était au 2e étage. Puis, elle était sous le bord de l'escalier. Et lui, il l'a poussé, puis la tête, il est arrivé bord en bord, dans le mur en bas, en bas des escaliers. Là, elle a été transférée à l'hôpital et son décès a été constaté.
Constaté. Et ça, c'était un 25 décembre.
Oui, oui.
Jour de Noël.
Oui, absolument. Oui.
Jour de Noël. Vous avez pu aller chercher le corps, vous?
Oui, c'est ça. On a monté à Haute-Rive pour emmener le corps à Chicoutimi. Puis lui, il a voulu s'imposer, mais ma tante a dit, bien... T'es pas mariée avec elle, ça fait que j'ai le droit. Puis oui, elle était dans ses droits d'emmener le corps à Chicoutimi. Oui.
OK. Puis ça, bon, comme vous savez que c'est... elle a été poussée, donc c'est de la violence, c'est un sévisme. Il y a personne qui a pu faire d'autopsie, il y a personne qui a pu voir ça nécessairement.
Bon, moi, c'est sûr, elle a été exposée chez Gravel et Fils. Et M. Gravel, qui était un grand ami du mari de la sœur à ma mère, lui a téléphoné. Il dit, viens voir le corps. Il dit, moi, j'ai jamais vu un corps comme ça. Fait que mon oncle est allé voir le corps. Ma mère avait un bras de brûlé au troisième degré, des ecchymoses partout, partout sur son corps. Puis là, bien, c'est ça. Ma tante a voulu ouvrir une enquête. Puis Gravel et fils nous a appelés. Lui, il a eu comme un mandat de faire incinérer le corps, parce que le corps de ma mère était congelé là, pour une enquête. Là. Puis ça viendrait des sœurs d'Autrive. Je ne sais pas comment ils sont amanchés pour que ça marche. Là.
OK, vous n'avez jamais eu la réponse?
Non, jamais, jamais.
Ça, c'est quelque chose
de... Mais on est obligé de la faire incinérer. Oui.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement...
Et ma tante a dit, bon, ma sœur n'aura jamais une vraie justice pour elle.
Est-ce que au salon funéraire, il est arrivé quelque chose de particulier?
Oui, mon père était présent.
Votre père biologique?
Oui. Je ne pensais pas qu'elle allait venir, mais il est venu. Mais le moment de fermer la tombe, les derniers moments... Tu restes avec le plus proche pour fermer la tombe. Puis il s'est approché de la tombe, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, papa, si tu aurais eu soin de ma mère, là, elle ne serait pas morte aujourd'hui. Puis je lui ai dit, tu as même cassé les reins à mon frère, puis j'ai dit, il en est mort. Et il l'a nié complètement. Et ça a été fini. Il est parti, puis je ne l'ai jamais plus revu.
Hey, c'est quand même des moments difficiles, mais vous avez eu quand même la capacité, oui, la solidité de lui dire ce que vous aviez à lui
Absolument.
Dire.
Absolument, oui. Oui.
Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps à tous vous retrouver après le décès de votre mère? Parce que vos demi-frères et demi-sœurs devaient être extrêmement traumatisés aussi.
Oui, eux, ils ont tous été adoptés parce que le conjoint, ma mère, ne voulait pas que je revoie mes sœurs et mon frère. Ça fait qu'ils ont toutes fait adopter. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari. J'ai été mariée 15 ans, une femme très, très heureuse. Puis, je n'avais parlé à mon mari. Puis mon mari, il a dit, ben oui, mais il n'y a pas de problème, on va faire des recherches. En disant ça, pas longtemps après, le téléphone sonne, puis c'était mon frère qui me cherchait. Il est allé directement où la tombe à ma mère.
Wow.
Puis, il a trouvé tout de suite la sœur à ma mère qui m'a gardée. Et là, tout s'est déclenché. Des belles retrouvailles.
Hey, ouais. C'est quand même magnifique à travers tout ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, Marianne, malgré tout ce qui vous est arrivé, vous dites être reconnaissante de l'amour que vous avez reçu un peu partout.
Oui, oui, absolument, oui.
Est-ce que vous en voulez aux gens qui auraient dû vous protéger et qui vous ont fait vivre à vous de la maltraitance et de la violence dans votre petite enfance notamment?
Les religieuses.
Les religieuses, puis votre père, puis
mon père, oui, puis... c'est sûr, ben oui, c'est sûr, tu restes avec une certaine rancœur, oui. Ben oui.
C'est quelque chose qui est difficile à passer, le pardon et toute cette étape-là, c'est...
Il n'y a pas beaucoup de pardon là-dedans, là.
Oui.
Non.
Est-ce que vous avez dit que vous avez eu une travailleuse sociale? Avez-vous consulté beaucoup? Parce que vous témoignez,
oui,
quand même avec aplomb aujourd'hui.
Oui, avec ma belle Suzy Robichaud, que j'ai fait des recherches. Je ne sais même pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais la minute que ça ne marchait pas, on se rencontrait. Elle me donnait des trucs pour m'en sortir. Non, vraiment, ça a été une bonne coach, oui.
Qu'est-ce que vous avez à dire, Marianne, aux gens qui vivent de la violence et de la maltraitance?
De dénoncer, mais c'est pas facile, là. De dénoncer. Puis surtout, je vais vous dire, les femmes vulnérables qui, malheureusement, prennent un conjoint violent, puis ont tendance d'en prendre un autre violent, c'est parce que l'homme diminue tellement cette femme-là, elle ne sait même plus ce qu'elle est, en fin de compte. Elle ne connaît même plus ses valeurs.
Je pense qu'on va s'arrêter ici. On va faire une pause. Il y a les nouvelles qui s'en viennent. Après ça, on va parler d'une belle partie de votre vie. Ce que vous faites en ce moment, c'est tout à fait magnifique. Et puis, on va faire jouer une chanson tout à l'heure qui est très significative pour votre guérison du cœur.
Oui.
Donc, 9h53, les nouvelles s'en viennent. Restez avec nous. Tu trouveras la paix. Ben, j'espère qu'après cette entrevue, qu'on va terminer d'ici une quinzaine de minutes, Marianne, vous allez trouver la paix.
Merci.
Ainsi que votre famille. Mmh. On va remercier quelqu'un. Avant de poursuivre notre entrevue, on va remercier quelqu'un. C'est la première personne ici, une ex-collègue qui a... qui vous a écouté, en fait, pendant une bonne heure.
Oui, ça s'est passé le 1er avril. Elle était supposée venir à la maison, mais il y a eu une grosse tempête. Ça fait qu'on a fait ça par téléphone. Puis, je tiens à remercier Nathalie Brisson, qui a eu une belle écoute avec moi, puis elle a pris le temps de m'écouter, de tout dévoiler ce que je dévoile ici aujourd'hui. Merci.
Avec beaucoup d'empathie.
Oui, beaucoup.
Merci beaucoup, Nathalie. Aujourd'hui, vous êtes préposé aux bénéficiaires. Okay? Vous vous occupez des gens pour plusieurs atteints de la maladie d'Alzheimer et vous leur donnez beaucoup d'amour. Mm-hmm. J'imagine que le fait que vous avez été abandonné à un moment donné, que vous avez manqué d'amour, que vous vous êtes senti abandonné, vous sert dans la vie avec ces gens-là.
Absolument, oui. Parce que le premier foyer d'accueil que j'ai fait, la madame était assez âgée. Puis je me souviens, elle est tombée malade et je suis obligée de partir. Puis je lui avais dit, quand je vais être grande, là, moi, je vais m'occuper de toi. Puis là, j'ai pris un cours privé en 2005 et j'ai dit, regarde, c'est ça que je veux faire. Puis je l'ai fait.
OK, c'est quelque chose qui vous a allumé à ce moment-là.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que, bon, on le sait, les personnes, par exemple, atteintes avec des problèmes neurocognitifs, c'est difficile des fois de communiquer, mais je sais que des fois, vous les animez, vous leur mettez de la musique, vous les faites danser.
Je les fais danser, on joue au ballon, on joue à la balloune, puis ils viennent tellement les yeux pétillants, puis c'est plus les mêmes personnes, là, mais vraiment plus, là. Tu sais, là, ils s'amusent, puis quand ils me voient, ils disent « Marianne, on danse! »
Wow!
Oui?
Wow! Hey, c'est vraiment quelque chose de beau. Pourquoi avoir témoigné sous le pseudonyme de Marianne?
Je veux garder mon je veux pas que tout le monde dise « Ah, c'est elle! » Parce que je suis connue, là. « Ah, c'est elle qui a été maltraitée! » Non, je suis pas prête encore à aller jusque-là. Je suis pas prête à ça.
Pas prête à ça que tout le monde vous pose des questions par rapport à ça de façon maladroite.
C'est ça. Ça fait que non, je veux garder... Mais je ne suis pas encore rendue à l'étape de dire mon vrai nom. Peut-être qu'un jour, on ne le sait pas. Mais là, aujourd'hui, je trouve ça bon ce que je fais là.
Absolument. Mm. Puis en même temps, c'est peut-être de ne pas avoir envie non plus de ne pas être considérée comme une victime. Parce que vous êtes une battante.
Oui, oui, une battante.
Vous êtes une battante.
Oui.
Je vais donner des numéros de téléphone en lien à... Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont écoutés, Marianne, ce matin, et qui vivent des choses difficiles par rapport à ce que vous avez dit. Donc, il y a de l'aide que vous pouvez obtenir après cette entrevue touchante, là. Il y a le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le 543-96-95. Et puis, ailleurs au Québec, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ailleurs au Québec, cherchez centre d'aide aux victimes d'actes criminels dans votre région. Il va y avoir de l'aide pour vous. Il y a SOS Violence Conjugale qui est le 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. Puis il y a des maisons d'hébergement dans chaque secteur. Sachez qu'en passant par SOS, les femmes sont dirigées dans leur secteur. Je vous redonne le numéro de la CAVAC parce que c'est important. C'est le 543-96-95, 543-96-95. Vous pouvez recevoir de l'aide à cet endroit-là. Là, on va se laisser sur une chanson importante. OK? C'est la dernière chanson pour clore notre entrevue, Marianne. J'aimerais ça que tu nous la présentes puis que tu nous dises pourquoi on fait jouer cette chanson-là précisément ce matin.
Pour ma mère, elle a le plus beau nom du monde, Aline, et c'est la plus courageuse des femmes. Je pense qu'elle me léguait son courage, cette femme-là.
Tellement, tellement, tellement beau. 14. Marianne est encore dans mon studio. On a écouté la très belle chanson Aline il y a quelques instants. C'était très significatif. On est parti en chanson après. Mais Marianne, merci d'avoir pris la parole pour ta mère Aline. Je suis sûre qu'elle est super fière. Du haut du ciel, merci d'avoir pris la parole pour toi, pour tes demi-sœurs, tes demi-frères. Merci pour les gens qui t'auraient écouté ce matin, à qui ça y donnerait un petit boost d'énergie pour aller de l'avant puis sortir
ça, pour aider
ce cercle vicieux de la violence.
De la violence, oui.
Merci infiniment, Marianne, d'avoir témoigné.
Merci à toi.
J'espère
aussi.
J'espère que tu repars
un peu plus légère. Je suis légère, comme un oiseau.
Wow! Il est 10h15. Merci beaucoup.